Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et comme nous sommes mercredi, nous allons évidemment évoquer les sorties de films avec Stéphane Boutsock, mais nous avons surtout le plaisir de recevoir ce matin deux chefs étoilés, Hélène Darroze, élue meilleure femme chef du monde en 2015, et Philippe Etchebest, que les téléspectateurs connaissent bien et qui lui a obtenu une étoile au Michelin pour sa table d'hôte, hein, ce qui est une première. Alors, je vous le demande, quel est le point commun entre ces deux grands toquets? Eh bien, ils sont tous les deux, ils font partie du jury de Top Chef qui redémarre ce soir même sur M6. Ils sont même très exactement les coachs des 14 candidats aux côtés de Michel Sarran et Jean-François Piège. Et si l'émission a cette fois une coloration particulière, c'est parce qu'il s'agit de la 10e saison. Hélène Darroze et Philippe Etchebest, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, dites-nous si le fait que ce soit la 10e saison ajoute, on va dire, selon vous, de l'intérêt ou même de la pression à cette nouvelle édition de Top Chef. Hélène Darroze.
Moi, je trouve que ça... Oui, parce que pour une bonne raison, cette année, on a eu des chefs invités qui sont venus nous accompagner. Alors, pour juger les plats que nos candidats faisaient, on a eu cette année un panel assez extraordinaire, plus de 100 étoiles,
100
je crois.
Étoiles, hein, c'est ça. Ouais.
Donc, avec Monsieur Ducasse, par exemple.
C'était celui qui manquait au palmarès.
Ben oui, c'était
dans
celui
Top Chef.
J'allais vous dire, c'était le rat, un des très rares.
Il fait son apparition sur la 10e saison et c'est plutôt exceptionnel. Donc on en est très fiers.
Bon, et ça, c'était une grosse pression pour les candidats. Ça, je dois dire que le jour où Monsieur Ducasse était là, c'était quand même un grand jour pour eux, pour nous aussi d'ailleurs.
C'est extraordinaire parce que je vous vois sourire tous les deux et la présence tout simplement de Ducasse, j'ai l'impression qu'on me parlait du Père Noël alors que bon, vous êtes des grands chefs, vous le connaissez. Alors, Isabelle Morini-Bosque a évidemment jeté un coup d'œil sur cette 10e saison. Isabelle, c'est à vous.
Alors, Philippe le sait, je déteste faire la cuisine. J'ai culinairement des goûts ultra simples et je trouve que l'esthétique aujourd'hui envahit beaucoup trop la cuisine. C'est vous dire la portée du compliment si je vous dis que j'adore Top Chef. Alors, c'est vrai que je plains évidemment les candidats quand vous leur rôdez autour en les perturbant, mais moi, ça me bloquerait complètement, même si c'est nécessaire. Mais surtout, franchement, j'adore la portée sociologico-humaine du programme. Vous les taquinez, vous ne les abandonnez jamais, vous expliquez pourquoi, vous les rejetez, quand vous les rejetez, enfin rejetez entre guillemets. Bref, c'est un programme qu'on ne peut qu'apprécier, surtout si on n'est pas dans son assiette, parce que c'est en plus souvent drôle, la preuve avec le candidat Damien.
Hé, hey, Kiki, t'as un concours là, t'as Top Chef là, c'est pas un défilé de mode.
On a l'impression qu'on est un peu à la maison là, tu nous reçois avec ton petit t-shirt.
En fait, je suis plus à l'aise en t-shirt, je sais bien que ça fait pas forcément honneur à la profession.
Moi, j'ai rien contre. On travaille dans son restaurant comme on a envie, tu peux travailler torse nu, en Marcel, comme tu veux. Après, tu te présentes à un concours. Il y a un minimum, tu comprends?
Moi, je me marre, je vois Philippe qui boue.
Mais attends un peu, s'il faut, il ira peut-être dans ta brigade, alors...
Moi, je suis intéressé par cet univers.
Merci.
Mais ça exprime une cuisine qui est assez moderne.
Moi, quand j'ai goûté dans l'assiette, j'espère que je vais sauter au plafond.
Très bien, chef.
Il va falloir me faire décoller. Hein.
J'entends.
Quand il retombe, par contre, il va se pousser.
Ah, aussi. Voilà. Alors, Hélène, elle a eu un autre coup de cœur.
Je suis né au Maroc, grandi au Maroc, j'ai eu mon bac au Maroc. Et puis après, je suis venu en Belgique pour continuer mes études en électromécanique. J'arrive en Belgique, j'ai un problème financier. Je me retrouve en cuisine, dans les casseroles, avec les volailles, avec les canards. J'ai été piqué, j'ai trop aimé cet univers. Et de là, je me suis retrouvé dans les restaurants étoilés.
Mais c'est joli cette histoire, ça me plaît moi ça.
Bon, tu veux rentrer dans quelle brigade toi? Ben vas-y, dis-le hein.
La brigade du chef d'Anne d'Arros.
La 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 la. Que ça me plaît ça.
Voilà, et bravo enfin, parce que c'est répété dans l'émission, pour votre lutte contre le gaspillage alimentaire et pour avoir choisi comme thème de cette première les entrées de bistrot, même si moi pas farouchement besoin qu'on les revisite, parce qu'alors Hélène, elle fait carrément une œuvre d'art, c'est à Beaubourg que ça devrait être, ou au Louvre.
Dites-moi, vous voyez écouter les extraits en fait, vous la regardez l'émission, parce que vous tournez tout ça, c'est brut, et après, elle vous échappe, parce qu'il y a le montage qui est tout à fait normal.
Ouais,
mais
c'est vrai, moi je les enregistre, je crois que j'ai toutes les enregistrées, j'en ai pas vu une encore.
Je
vois un ou deux épisodes, mais c'est très rare.
Vous avez tort.
Je suis exactement comme toi. Moi, c'est mes petites filles qui les regardent pour moi et qui me racontent après.
C'est une excellente émission. Je vous conseille vraiment de la regarder.
Oui.
Et comme on l'a pas encore cité, je vais quand même signaler aussi, bien entendu, notre camarade Stéphane Rottenberg, qui vous accompagne depuis des années, dont on
formidable.
Est la voix il y a quelques instants.
Alors,
Isabelle,
soit dit sans être désobligeante, on parle de la 10e saison, mais c'est pas votre 10e saison à vous, puisque vous êtes là depuis la saison 5, tous les
cinquième.
Deux. Et avant, il y avait Guylaine Arabian, Thierry Marx, Cyril Lignac et
Christian Constant.
Ouais.
Il y a une vraie camaraderie entre vous?
Non. Complètement pipoté.
Si vous saviez ce que je subis. Oh là 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 là.
Écoutez.
Avec ces trois garçons.
Je fais honneur à la France, à notre culture.
Bravo Top Chef. Vous faites briller la gastronomie française dans les foyers.
Soyez à la hauteur, s'il vous plaît.
La 10e saison, on veut du jamais vu, on veut être bluffé.
Nous serons intransigeants car nous allons former nos brigades avec un seul objectif, trouver le futur gagnant.
Qui c'est qui veut gagner Top Chef ?
Moi !
Ouais, qui c'est qui veut venir avec moi ?
Voilà !
La victoire, elle est pour moi et je ne laisserai aucun de vous vous mettre sur ma route.
C'est la guerre.
Il a bien compris, Philippe. Ouais.
Alors, petite remarque, hein, tous ces jeunes ont quasiment l'assurance de ne pas connaître le chômage, vu que c'est un métier qui manque de bras. Il faut toujours le rappeler. Ben oui. Et même si vous le rappelez souvent, Philippe Etchebest, que 6 restaurants ouvrent et ferment chaque jour, reste que c'est toujours surprenant de les voir parfois s'effondrer pour une sauce ratée et puis ressusciter quand vous leur faites un compliment. Ça peut être vite angoissant, non, pour eux, et peut-être pour vous parfois aussi.
Bah, on fait un métier qui touche au cœur, quoi. On fait un métier où on met toutes nos tripes dans l'assiette, toutes nos émotions, toute notre sensibilité. Donc, c'est sûr que quand on réussit, on est heureux, et quand on rate, c'est la fin du monde, quoi, c'est clair.
On fait un métier, c'est certainement le métier qui est le plus jugé. On est jugé midi et soir par tout le monde, tous les jours de l'année, il faut le savoir. Hein. Donc, il faut le supporter, effectivement. Tout ça, ces jugements, ces commentaires, ces critiques, parfois. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi, mais c'est pas simple pour tout le monde.
Alors, on n'oublie pas Objectif Top Chef, une émission qui vous permet de dénicher le meilleur apprenti de France et de l'intégrer ensuite dans Top Chef. Il sera même cette fois dans votre brigade. C'est important pour vous, ce côté, on va dire, formateur, éducateur spécialisé.
Ah ben, au-delà d'être important, c'est un devoir de former justement et de transmettre. On a été nous-mêmes formés, donc ça paraît légitime et logique aujourd'hui de former les jeunes. C'est l'avenir. Hein, nous, on est le passé. Hein, Hélène ?
Le passé, pas encore. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, Top Chef, c'est certes un concours où il va y avoir un gagnant, et voilà. Mais c'est aussi pour nous, en tous les cas, un moyen de transmettre d'abord directement aux candidats et puis après à d'autres à travers l'image. Je crois que voilà, tu disais, c'est un métier où on est jugé deux fois par jour, mais c'est un métier aussi où on a la possibilité de transmettre comme nulle part ailleurs, je pense. Hein.
Justement, est-ce qu'il vous est arrivé, comme Philippe Etchebest, d'engager ensuite un candidat, par exemple, dans votre nouveau restaurant, dans le 2e arrondissement de Paris.
Qui se trouve rue des Jeuneurs, ça ne s'invente pas.
Alors, sauf que la rue des Jeuneurs, c'était autrefois la rue des Jeuneufs. Ça n'avait rien à voir avec ceux qui jeûnaient.
Oui, mais c'est pour le jeu de mots.
D'accord.
Vous avez récupéré un gamin ou pas, vous, déjà ?
De Top Chef, pas encore. Mais après, je ne sais pas si les gamins de Top Chef, comme vous dites, ils ont ensuite l'ambition d'être chef, peut-être pas de travailler pour nous.
Aujourd'hui,
vraiment,
ils ont des situations qui sont différentes par rapport à Objectif Top Chef, où j'avais affaire à des apprentis. Top Chef, c'est encore autre chose. Ce sont des cuisiniers qui sont confirmés.
Cela dit, et moi je lui ai dit, la petite Camille qui sort d'Objectif Top Chef et qui donc intègre le concours, mais moi c'est quand elle veut dans ma brigade. Parce que c'est une jeune femme, on peut dire, mais maintenant extraordinaire à tous les points de vue, qu'elle soit humaine ou professionnelle. Alors moi je la prends quand
Bordeaux,
elle veut.
T'inquiète.
Elle va venir à Bordeaux. Bah, ça y est, il veut vous la voler. Bon, alors, on va marquer une courte pause avant de retrouver Laurent Marcy qui est allé voir une gagnante de Top Chef, consacrée par le dernier Guide Michelin, comme d'ailleurs 3 autres lauréats de l'émission. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous sommes toujours en compagnie d'Hélène Darroze et Philippe Etchebest, juré de l'émission Top Chef, qui revient ce soir sur M6 pour une 10e saison. Top Chef a été cette année indirectement couronné par le Guide Michelin, qui a accordé plusieurs de ses étoiles à d'anciens candidats. Laurent Marcy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes allé à la rencontre d'une ancienne gagnante qui vient de recevoir sa première étoile.
Oui, souvenez-vous, c'était le 29 avril 2013, finale de Top Chef.
C'est un truc de dingue, je suis super heureuse. C'est vraiment un aboutissement. De voir ma famille heureuse, c'est du bonheur. Et puis je voulais la gagner, quoi. Je voulais vraiment, vraiment, vraiment...
Elle s'appelle Nawel Desnaux, 29 ans à l'époque, originaire de Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val-d'Oise. Elle remportait la 4e édition de Top Chef. Elle était alors sous-chef du Bristol à Paris. Depuis, on avait un peu perdu sa trace. Elle n'avait pas ouvert de restaurant par la suite, mais elle était allée travailler pour un site de vente en ligne. Elle n'a pas écumé les salons comme beaucoup. Et puis, il y a un an et demi, elle a ouvert son propre restaurant à Pontoise avec son mari, sommelier, Laure Kidé. Laure, L'OR, plus loin Q. Apostrophe IDE. Il lui fallait d'abord, dit-elle, retrouver sa propre identité.
J'ai travaillé 10 ans pour un grand chef, donc c'est vrai que sa signature culinaire, elle était quand même assez ancrée en moi. Et j'avais la tête baissée à travailler comme une dingue. Et ces opportunités-là, je me suis dit que c'était vraiment à saisir. Travailler pour un chef pendant très longtemps, c'est qu'on s'imprègne de sa signature et on oublie de retrouver la nôtre. Donc moi, ça m'a permis de me retrouver aussi culinairement, de savoir ce que j'avais envie, de ce qui me plaisait moins. Et ce que je savais au fond de moi, c'est que j'aimais cette rigueur et la perfection des choses.
Des années de travail qui viennent donc d'être récompensées par une étoile au Michelin.
C'était il y a 15 jours, raconte Noël Desnaux, un coup de fil, un samedi matin. Non deux, parce qu'au premier, elle dormait. Ils n'ont pas répondu. Du coup, au deuxième, ils ont répondu au bout du fil. Un inspecteur annonçant donc cette première étoile.
Ça a été une réelle grosse surprise. C'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps et que quand on arrive à ce niveau-là d'être dans la perfection en permanence, de vérifier la qualité des produits, de se bagarrer avec nos fournisseurs, parce que quand on n'est pas derrière eux, il y a un peu de lâcher prise. Donc voilà, c'est vraiment une rigueur tout au long d'une vie. Et quand elle a été récompensée, pour moi, c'est un énorme cadeau. Je crois que cette émotion-là, je l'ai rarement eue. D'ailleurs, ça me touche encore parce que c'est énorme. C'est quelque chose qu'on attend, qui est ancré en nous. Et c'est une fierté. C'est pas une pression supplémentaire, parce que la pression, je me la mettais tous les jours. Donc ça va juste continuer à jouer l'excellence jusqu'au bout.
Table 6, deux desserts, une betterave, une cacahuète, s'il vous plaît.
Table 4, on fait marcher deux tartes et une betterave, s'il vous plaît.
Est-ce que vous vous souvenez tous les deux, Hélène Darroux, Philippe Etchebest, de cette émotion que vous avez ressentie quand on vous annonce comme ça une étoile ?
Oh bah oui. Bien sûr, ouais. C'est extrêmement jouissif, je dirais, ça prend à l'intérieur, mais la satisfaction, elle est d'autant plus grande que on le partage avec toute une équipe. Et c'est moi ce que j'avais ressenti le plus, c'est de l'annoncer à tous mes
ouais,
et ça c'était ma plus grande fierté.
Vraiment.
Ouais, moi je me souviens. Moi je me souviens surtout quand j'ai eu la deuxième étoile à Paris. J'étais à New York, je faisais un dîner à New York et j'avais demandé à mon papa de venir du coup au restaurant à Paris pour s'il y avait une décision à prendre, un problème à gérer ou quoi. Et c'est lui qui a reçu la nouvelle de la deuxième étoile et qui m'a appelé à 4h du matin. Donc pour moi à New York, qui m'a réveillée et il pleurait tellement le pauvre que je croyais qu'il y avait un malheur qui était arrivé. Et voilà. Et donc celle-là, je m'en souviendrai longtemps. Quoi.
C'est un poids aussi ou pas ?
Pas pour moi.
Derrière,
non,
une responsabilité en tout cas.
Quelqu'un la refuse
quand même...
maintenant l'étoile.
Ouais. Allez-y. On la refuse pas l'étoile. Le guide Michelin, c'est le guide Michelin qui décide s'il la donne ou s'il n'en donne pas. À un moment donné, il y a des règles. On rentre dans un espèce de modèle, quelque part, avec une volonté aussi. Et puis qu'il faut accepter un petit peu toutes ces règles. Alors la pression, bien sûr, il y a la pression. Alors on l'accepte aussi, puisqu'on rentre dans le cursus. Donc elle peut déstabiliser certains, elle peut motiver d'autres. Maintenant, voilà.
Moi, je dis toujours, on est des marchands de bonheur. Ça, c'est notre... Je veux dire, on cuisine pas pour se dire on fait du deux étoiles. On cuisine parce qu'on veut rendre des gens heureux. Et c'est ça, la pression, elle est là. Pour moi, elle est là, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Alors après, c'est sans doute un peu la même chose. Je veux dire, plus on rend les gens heureux et sans doute plus il y a chance d'étoiles. Mais moi, en tout cas, je n'y pense jamais aux étoiles. Je pense simplement, voilà, à donner du bonheur. Voilà, et après, advienne ce qu'il adviendra.
Alors, c'est aussi le cas de Noël Desnaux et son équipe. Je l'ai regardé travailler, on dirait un laboratoire. Les gestes sont hyper précis. Ça ne crie pas, c'est hyper silencieux. Les assiettes qui sortent de la cuisine ressemblent à des œuvres d'art. Elle garde un souvenir de l'émission Top Chef, celui de ne jamais gaspiller.
Créer en si peu de temps, c'est tellement intense que je pense que c'est une expérience unique. J'ai créé pendant un mois et demi, voire deux, trois épreuves par jour. Donc rien que pour ça, ça m'a grandi. C'est de me dire que je peux m'adapter à n'importe quelle circonstance et surtout de ne rien jeter. Telle est ma devise aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui c'est notre cas, on ne jette absolument rien.
Ça, vous l'avez appris dans l'émission, ça ?
Et ça, oui, ça m'a permis aussi de me dire, dans cette émission, finalement, on était aux aguets des pertes. Et ça, je l'ai peu connu. Avant cette émission, j'avais pas forcément envie de me lancer. J'étais bien dans mon confort, peut-être. Je travaillais des produits d'exception, j'avais le poste que j'avais désiré, j'aurais pu rester là où j'étais. Mais ouais, effectivement, ça a été un accélérateur de me dire c'est le moment jamais de partir, parce que c'est possible, quoi.
Et pour vous, qui représentez les coachs, elle a un message.
Je leur dis merci, parce que c'est grâce aussi à eux, à nos pères, qui nous ont donné l'envie de faire ce métier-là, et de grandir, et que la preuve est existante, c'est que les femmes ont aussi leur place dans ce métier-là. Et je pense qu'on en est la preuve humaine. Et voilà, donc... ben voilà, je leur remercie parce que c'est aussi grâce à eux qu'on a envie de faire des belles choses.
Vous voyez, il y a toujours des messages qui arrivent après. Ça s'appelle l'Orchidée, son restaurant, c'est à Pontoise dans le Val d'Oise. Si vous y allez, je vous recommande le dessert cacahuète. C'est une sorte de... c'est un sneakers déstructuré avec de... c'est...
Dites-moi, je commets peut-être un impair énorme. C'est pas elle qui avait piqué un homard à un de ses petits camarades?
C'est pour que là, effectivement, j'intervenais comme guest où je faisais une épreuve, l'épreuve pression.
Exactement.
Absolument. Donc je l'ai croisée.
Mais elle s'en est bien sortie.
Ah oui, très bien. Mais la preuve en est. Et il y a elle, mais il y en a d'autres aussi. Je pense à Stéphanie Lequellec, qui a eu sa deuxième étoile cette année aussi, qui est une candidate, qui a été une candidate extraordinaire et qui est une cuisinière aussi.
Guillaume Sanchez qui a eu une étoile. Guillaume aussi, Jérémy aussi.
Il y a un réservoir de très bons cuisiniers. C'est vrai que Top Chef, c'est un concours de cuisine, mais c'est aussi un révélateur de talent.
C'est agréable de vous voir si fier de ces jeunes gens, jeunes garçons et filles que vous avez contribué à former et qui aujourd'hui, par le biais de cette émission, vous disent merci. Hélène Darroze, Philippe Etchebest, merci infiniment d'être venu nous voir aujourd'hui. Stéphane Rothenberg, pour la 10e saison, c'est ce soir sur M6. On était très heureux de vous accueillir. Bonne journée à tous.
Merci à vous.
On vous laisse regagner vos fours. Et après ce moment Top Chef, et bien le moment du cinéma, c'est dans quelques instants avec Stéphane Boutsock. Nous sommes mercredi. Il sait tout des dernières entrées et surtout des dernières sorties.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et après Top Chef, nous vous emmenons maintenant avec grand plaisir au cinéma. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour tout le monde.
Avant de passer en vue quelques-uns des films de la semaine, parlons chiffres avec ce impressionnant de Qu'est-ce qu'on a fait encore, bon Dieu.
Oui, qui enflamme le box-office d'après nos camarades du site cbo.fr. Près de 2 300 000 entrées en une semaine. C'est le meilleur démarrage d'un film français depuis un an. C'était les cartons de La Ch'tite Famille et des Tuches 3. 600 000 entrées de mieux que le premier volet en 2014. Reste à savoir ce que donnera le bouche-à-oreille. Une grosse concurrence en plus à venir. Score à battre, au final, je le rappelle, 12 300 000 spectateurs. Pour le reste, notez que 3 films ont passé le million d'entrées. La Mule, Glace et Les Invisibles.
Encore 17 nouveautés à découvrir cette semaine sur nos écrans. Et un coup de cœur pour commencer, Stéphane, la favorite du réalisateur grec Yorgos Lanthimos.
Cinéaste au scénario assez pointu, on peut même dire barré, qui là se retrouve avec 10 nominations aux Oscars grâce, je le dis, à un très grand film. Baroque, sexuel, fou, l'histoire en partie vraie du règne mouvementé de la reine Anne dans l'Angleterre du début du 18e siècle. Ce fut la dernière représentante de la maison Stuart. Une majesté à la santé physique et mentale assez précaire, recluse dans son château, partagée, figurez-vous, entre les faveurs de deux courtisanes, la noble Lady Sarah et la gouvernante Abigail.
Estamponne les deux.
Vous allez voir. Oui, c'est un peu le bon mot, vous verrez certaines scènes. Tous les coups sont permis. On est entre Alice au Pays des Merveilles et Marie-Antoinette. Visuellement, c'est totalement bluffant. C'est joué à 100 à l'heure par Olivia Colman, merveilleuse comédienne anglaise de la série Broadchurch, Emma Stone ou encore Rachel Weisz. Film moderne et historique à la fois, signé donc Yorgos Lanthimos.
Très en amont, nous avons pris des décisions pour apporter une texture très contemporaine au film, dont nous sentions très libres de travailler dans la direction que nous avions choisie. Par exemple, dès l'écriture du scénario, il était clair que les personnages parleraient d'une manière moderne, mais pas comme nous supposions qu'ils s'exprimaient à l'époque. Pour les costumes, comme vous le dites, nous avons fait des recherches pour respecter les modèles d'origine, mais en utilisant des matériaux actuels, du jean vintage, du cuir, du plastique. Nous avons limité la palette des couleurs. Pour la musique, nous avons mêlé des airs de l'époque, mais aussi des mélodies contemporaines. Quant à l'aspect physique des personnages, comme ils marchent, s'assoient, se tiennent, dansent, ça aussi c'est très contemporain, alors que c'est censé se dérouler au XVIIIe siècle.
It happens to take place in the 18th century.
La musique de Vivaldi, notamment. Ne ratez pas La Favorite, une des premières grandes sensations cinéma de cette année 2019. Ça sort donc aujourd'hui. Je vous signale aussi My Beautiful Boy du Belge Félix Van Groningen avec le phénomène Timothée Chalamet. Oui. Formidable jeune comédien, entouré ici notamment de Steve Carell. Histoire rude et émouvante d'un papa prêt à tout pour sauver son fils de la drogue.
Autre coup de cœur, Stéphane, le film d'animation Dragons 3 ou Dragon comme
Dragon.
C'est une petite faute. Je vous ai inversé le A et le R. C'est un dragon en fait.
comprends à quel point je suis concerné par ces petits personnages.
Mais vous avez tort, merveilleuse trilogie de films d'animation. Moi, j'ai adoré, ça dure depuis 10 ans, par les créateurs de Shrek ou Kung Fu Panda, donc le studio DreamWorks, qui ont imaginé, figurez-vous, qu'autant des Vikings...
Panda, j'aime bien, oui. Ça,
et, ben oui, voilà, oui. Qu'autant des Vikings, les humains et les dragons avaient appris à vivre ensemble. Voici donc l'heure du dénouement. Harold, qui est devenu chef de tribu, et Croque-Mou, figurez-vous, son dragon noir, vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes, chacun de son côté, au moment où Croque-Mou tombe amoureux d'une belle dragonne toute blanche, la furie éclair, et qu'un infâme chasseur de dragons rôde dans les parages. Extrait.
Je reconnais le style de ce travail. Grimmel le Grave.
Faut bien admettre que par chez moi, tout le monde le connaît, ce chasseur.
C'est le plus malin.
Enfin, après moi, bien sûr.
Eh ben, il doit pas être si malin. Il a laissé un piège sans surveillance.
Oh non, rien n'est accidentel quand on parle de ce vieux Grimmel. Il ne vit que pour la chasse, entrer dans la tête de sa proie et pouvoir contrôler ses moindres faits et gestes. Tout ça n'est qu'un jeu pour lui.
Sauf que cette fois, il va trouver du monde en face.
Ouais, on a déjà affronté des types comme lui.
Ne sous-estime pas Grimmel le Grave. Parce qu'il va revenir, tu peux me croire.
Alors, on l'attend de pied ferme.
Animation sublime, grand et beau sentiment. Et puis cette reprise de Tom Petty, notamment en guise de bande originale. Ne ratez pas là non plus Dragon 3. Et pour prolonger l'expérience, je vous signale que nos camarades du musée Art Ludique proposent une exposition sur les dessins originaux et les peintures numériques de la trilogie. Ça se passe 2A rue Montalembert à Paris. Dans le 7e.
Du cinéma français maintenant, Stéphane, avec la très grosse sortie de ce 6 février, Nicky Larson et le secret de Cupidon 2, et avec Philippe Lachaud.
Toute son équipe, la fameuse bande à Fifi, celle qui triomphe depuis 6 ans grâce à Babysitting 1, 2, Alibi.com ou Épouse-moi mon pote, humour, trash, gags énormes, action, cocktail qui a fait recette. Mais alors ici, cette fois, on voit vraiment trop les ficelles. Cette adaptation d'un manga japonais, déjà décliné en série télé animée, ne manque pas d'énergie ni d'ambition, ça c'est sûr. Mais l'ensemble, en plus d'être assez moche et moyennement bien joué, recycle une fois de plus les mêmes blagues sur le sexe, les gays. Malheureusement, c'est assez prévisible de bout en bout, dans un tout autre genre. J'ai en revanche beaucoup aimé Une intime conviction d'Antoine Rimbaud, thriller judiciaire haletant, largement inspiré, rappelez-vous, de l'affaire Jacques Viguier, énigmatique prof de droit de l'Université de Toulouse, accusé du meurtre de sa femme en est en 2000, malgré l'absence du corps de la victime. Viguier avait été acquitté, puis rejugé après l'appel du procureur général. Eh bien, le film s'intéresse à ce deuxième procès. Olivier Gourmet incarne Éric Dupont-Moretti, l'avocat de Jacques Viguier, et Marina Foïs et Nora, c'est un personnage fictif, femme obsédée par le dossier qui va tout faire pour aider le défenseur à innocenter son client. Film en forme de réflexion passionnante sur la justice, le droit à une deuxième chance et la quête de vérité. Sujet qui passionne Marina Foïs.
Oui, ça m'a toujours intéressée. J'allais aux assises assister à des procès comme ça, parce que c'est public, c'est ouvert au public. Je trouvais ça passionnant, fascinant, terrorisant. C'est souvent humiliant pour ceux qui sont en première ligne. Des deux côtés, il y a beaucoup de douleur, il y a de la tragédie en fait. Et puis en même temps, c'est un endroit où les gens devraient pouvoir commencer à se réparer. Donc c'est vertueux en fait, c'est quelque chose... Retrouver du sens, trouver la vérité ou une vérité. Donc, je sais pas, c'est un endroit qui me touchait. Et puis, j'ai toujours aimé les films de procès, 12 hommes en colère, La vérité. Enfin, voilà, c'est un sujet qui me touche, quoi.
Marina Foïs, savoir dans Une intime conviction, aujourd'hui au cinéma, sortie aussi de La dernière folie de Claire Darling, de Julie Bertuccelli, avec Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni. C'est la bonne idée de cette chronique familiale sur le temps, l'oubli, l'histoire d'une septuagénaire qui perd un peu la boule, persuadé que de vivre sa dernière journée et qui décide de brader tous ses meubles et souvenirs de famille au moment où sa fille, qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans, réapparaît. Au-delà du bonheur de voir les actrices mère et fille partager l'affiche, le film n'évite pas le piège majeur malheureusement de son histoire, les allers-retours entre passé, présent. Au final, moi je me suis un peu perdu dans le voyage. Si vous aimez le froid, la neige, la solitude, bah, ne ratez pas Arctic de Joey Pena, dans lequel Mads Mikkelsen, vous savez, ce grand acteur danois qu'on avait vu dans Casino Royale et dans la série Animal, se retrouve naufragé dans le désert de glace de l'Arctique après un crash aérien. Il a pas de peau, il est un peu poissard parce que non seulement il doit survivre, mais en plus il va devoir secourir les secours qui ont eu aussi un accident.
Ah ben manquait plus que ça.
Mais c'est très angoissant. Je vous le conseille.
Oui, mais nous, alors, ma camarade Isabelle et moi, on adore tout ce qui
est une
polo,
froid,
etc. On mettra un petit polo, c'est promis. Hein. Une petite liseuse, éventuellement.
Alors,
une bouillotte. Non, mais une bouillotte, tout ce que vous voulez. Dans quelques instants, Monsieur Julien Courbet est avec nous.
Bonne matinée en compagnie d'RTL.
Et surtout, bonne matinée avec Julien Courbet, nous retrouvons tout de suite.
Oh, Jürgen, comment allez-vous? Excusez-moi, je viens de voir passer la pub pour Jürgen Kopp. J'adore cette pub. Vous n'aimez pas?
Pour Opel, là, où il est avec la madame.
L'entraîneur de Liverpool.
Ça passe un peu au-dessus de la...
Bon, écoutez, il y a quand même un sacré... Il est là tout le temps devant l'hôtel, puisque les pubs changent, et à chaque fois, elle arrive avec plein de bagages, et il lui dit, ça rentrera pas. C'est son boulot.
Voilà. Ah ben, je croyais que vous alliez encore me parler d'Hervé Pouchol.
Ah non, 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 pas tous les jours. Il a un âge où on ne peut pas parler
moi, ça rentre,
tous les
hein.
jours.
Oh, ah, oui. Non, Pouchol, président.
Écoutez,
j'ai cru que vous alliez dire que les valises, il les avait sous les yeux.
Mais c'est très bon, ça. J'aurais pu, mais je n'ai pas cette finesse.
Une bonne je vous raconterai un jour mon petit dîner dans une pizzeria à Monaco avec Hervé Pouchol, mais là, j'ai pas le temps.
Ah oui, parce que vous avez travaillé sur une autre radio ensemble.
Absolument,
à un moment donné. Oui. Ah, c'était, je vais pas le dire, le bon temps. Pas pour la radio, en tout cas, pour vous, oui. Mais pour la radio, en question, c'était pas le bon temps. Allez, merci beaucoup.
On vous embrasse. Bonne émission.